Voilà. Bien, tout d'abord, je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année avec beaucoup de sérénité. La sérénité, c'est-à-dire vivre ce que l'on devra vivre, telles que les situations se présenteront avec sérénité et paix intérieure. Les choses ne vont pas tellement être dissemblables à ce qu'elles ont été au cours de l'année qui vient de s'écouler. Mais par contre, on peut les vivre peut-être différemment et c'est ce que nous enseigne la méditation. Voilà. On vient de vivre toute une période de fête. Peut-être que tout le monde a été très heureux, mais en même temps, on a vécu pas mal de peut-être d'agitation, de turbulence, on a reçu beaucoup de mails, beaucoup de SMS, beaucoup de lettres, etc. Il fallait répondre à tout ça, il fallait faire face à tout ça, en plus de toute l'activité, ordinaire. Et c'est intéressant de voir comment réagit l'esprit quand, nous sommes un peu pris par, cette agitation et des situations qui, nous sortent un petit peu des situations, ordinaires. Et comme on en parlait le mois dernier, je pense qu'il est très bienfaisant pour l'esprit que de temps en temps, au début d'une activité, on prenne ne serait-ce que 1 minute de calme pour se poser et replacer notre esprit dans l'instant présent et voir développer cette conscience de l'instant présent par rapport à l'activité dans laquelle nous nous engageons. Au lieu de toujours avoir l'impression de courir, d'avoir la tête dans le guidon et de boire la tasse à longueur de journée. Comme disait Bhokhara Rinpoché, la méditation, c'est la seule façon de vraiment mettre l'esprit en vacances. Et la méditation, ce n'est pas seulement lorsque nous nous asseyons sur notre coussin et que nous faisons nos 20 ou 30 minutes quotidiennes, mais c'est de savoir placer notre esprit en méditation au sein même de notre activité, de façon à ce que l'activité elle-même devienne un support pour être conscient de comment réagit notre esprit par rapport à l'activité dans laquelle on s'engage, par rapport à la situation, les circonstances que l'on rencontre. Et si on sait poser l'esprit de cette façon-là, eh bien on médite, je dirais, à longueur de journée. C'est ce qu'on appelle la méditation en action. Ça ne vient pas, la méditation en action ne vient pas parce que nous avons médité pendant 25 ans au fond d'une grotte. Oui, c'est sûr que ça doit entraîner l'esprit. Mais si nous n'avons pas la possibilité de passer 25 ans dans une grotte au fin fond de l'Himalaya, eh bien, il faut entraîner l'esprit autrement et faire des petites pauses dans notre activité quotidienne de façon à replacer l'esprit en méditation. Et ça, je pense que c'est vraiment très profitable. Nous avons vu le mois dernier, alors nous sommes depuis plusieurs mois dans comment travailler avec les émotions perturbatrices ou les facteurs perturbateurs selon les différents véhicules. Nous avons vu comment les pratiquants du petit véhicule travaillent avec ces facteurs perturbateurs. Le mois dernier, nous avons abordé la première partie du travail sur les facteurs perturbateurs selon le grand véhicule, mais le grand véhicule qui s'appuie sur les sutras. Alors je rappelle, pour les personnes qui sont nouvelles, il y a donc trois véhicules dans le bouddhisme. Le petit véhicule, c'est ce véhicule qui s'appuie sur les sutras. Et les pays les plus représentatifs de ce véhicule, aujourd'hui en Asie, sont le Sri Lanka, la Birmanie, le Laos, le Cambodge et la Thaïlande. Dans le grand véhicule, vous avez deux grands courants. Le courant qui s'appuie uniquement sur les sutras, les enseignements publics du Bouddha. Ce courant a donné le Chan en Chine, lorsque ce courant est passé de l'Inde en Chine, et lorsque de Chine ce courant est passé au Japon, le Chan, eh bien, a donné le Zen, le bouddhisme Zen, et donc ce courant-là. Et puis vous avez l'autre courant qui s'appuie sur les sutras, mais aussi sur les tantras, ces enseignements qui sont particuliers dans les moyens qu'ils utilisent. et qui, ce courant a donné le Vajrayana, c'est-à-dire en fait le bouddhisme tibétain, et puis une branche japonaise qu'on appelle le Shingon. Et nous sommes dans le grand véhicule qui s'appuie sur les sutras pour ce type d'enseignement. En sachant, il faut toujours se rappeler que le bouddhisme tibétain, le Vajrayana, est une branche du grand véhicule, et que même si on le présente comme un véhicule en lui-même, c'est une branche du grand véhicule. Et qu'est-ce qui qualifie le grand véhicule par rapport au petit véhicule? C'est la notion de bodhisattva et la bodhicitta. Le bodhisattva, c'est vraiment le pratiquant qui ne conçoit pas son éveil personnel, qui ne conçoit pas pouvoir réaliser l'éveil sans prendre en considération l'éveil de tous les êtres. Ça, c'est vraiment la particularité, disons, du grand véhicule. Le pratiquant, ce qu'il vit, il comprend que tous les êtres vivent de cette même façon, aspirent à la même quête du bonheur et de la paix intérieure, et que donc il ne peut pas penser à sa propre libération sans prendre en considération la libération de tous les êtres. Dans les paramitas, c'est-à-dire dans les vertus qui vont constituer la colonne vertébrale de la pratique d'un pratiquant du grand véhicule, eh bien cette aspiration à la libération de tous les êtres va être toujours présente. Si on prend par exemple l'éthique, la conduite éthique dans le petit véhicule, c'est comprendre que les actes négatifs engendrent du mauvais karma, du karma négatif, et que par cette accumulation de karma négatif, eh bien, les prochaines renaissances risquent de ne pas être très positives. Dans le grand véhicule, il y a cette dimension, mais l'éthique est pratiquée de façon plus large, c'est-à-dire comment mon attitude aujourd'hui est cause de souffrance pour autrui et comment remédier à cette attitude, à ce comportement. Donc l'éthique va consister à ne pas accomplir d'actes négatifs pour soi-même, mais aussi pour autrui. Donc on voit que dans cet objectif, eh bien la motivation est plus large que dans le petit véhicule. Et en fait, toutes les paramitas, que vous preniez l'éthique, la patience, le don, hein, la diligence, la persévérance, enfin la concentration et la connaissance, eh bien toutes ces six paramitas ont cette dimension de la bodhicitta. La bodhicitta relative, c'est aussi le fait que par cette pensée que tous les êtres ont la même aspiration que nous-mêmes, eh bien c'est comprendre la souffrance et la cause, et les causes de la souffrance. Nous ne pouvons pas vraiment comprendre les causes de la souffrance si nous n'expérimentons pas la souffrance et si nous ne comprenons pas quelles sont les causes de notre propre souffrance, c'est-à-dire si nous ne percevons pas ou si nous n'analysons pas ou n'étudions pas le comportement de notre esprit. Et c'est pourquoi j'insiste beaucoup sur le fait que méditer ne veut pas dire simplement être concentré et travailler sur la non-distraction. C'est travailler aussi sur l'observation du comportement de notre esprit. En quoi ce comportement me cause de la souffrance? Et plus nous observons ce comportement de l'esprit, plus nous voyons, nous constatons, nous faisons l'expérience, eh bien, que notre souffrance n'est pas due fondamentalement aux circonstances extérieures, aux situations que nous rencontrons, mais elle est due à comment nous réagissons par rapport à ces situations-là. Et que donc la clé de la souffrance est dans notre esprit, c'est dans ce fonctionnement de l'esprit. Et si la clé de la souffrance est dans notre esprit, la clé de la libération est dans notre esprit aussi. Et ça, c'est tout l'objectif de la méditation, c'est prendre conscience de ce fonctionnement, en quoi ce fonctionnement est erroné. Il n'est pas négatif, il n'est pas malsain par nature, il est malsain parce qu'il me cause de la souffrance. Et ça, je dois vraiment expérimenter cela de façon à le comprendre et de façon aussi à ce que ma pratique puisse valider le dharma, valider les textes, valider l'enseignement. Et ça, c'est un autre aspect qui est très important. Notre pratique doit toujours valider l'enseignement du Bouddha. Nous n'avons pas à accepter le Dharma, l'enseignement du Bouddha, parce que le Bouddha a enseigné que les choses sont comme ça. Nous devons pratiquer cet enseignement, mais jusqu'à prouver que ce que le Bouddha a démontré, oui, c'est vrai, parce que je l'expérimente. Et de la même façon, par la méditation, eh bien, nous voyons que si nous abordons les situations et nous y réagissons de façon différente, eh bien, notre esprit, malgré la situation, eh bien, vit la situation de façon plus paisible, de façon plus, plus sereine. Et donc là, on comprend que la clé de la libération, eh bien, c'est dans ce fonctionnement-là de notre esprit. Et nous devons en faire absolument l'expérience. Quand on dit que les facteurs perturbateurs viennent perturber la tranquillité, la paix de notre esprit, est-ce que nous voyons toujours les facteurs perturbateurs comme quelque chose eh bien, qui vient vraiment perturber notre paix intérieure? C'est évident pour certains facteurs perturbateurs, la colère, la haine, la jalousie par exemple, c'est clair que ce n'est pas confortable quand notre esprit est soumis à ces facteurs perturbateurs. Mais il y a d'autres facteurs perturbateurs sur lesquels il faut vraiment se pencher plus, avec plus d'attention, de façon à déterminer si le fait d'avoir ce facteur perturbateur est vraiment perturbateur pour notre esprit. Est-ce que le désir, l'attachement, c'est un facteur vraiment perturbateur? C'est décrit comme tel dans les textes, mais est-ce que je le vis vraiment comme étant un facteur perturbateur? Après tout, lorsque vous parlez de ça à quelqu'un qui ne pratique pas la méditation, la personne d'emblée vous dira « mais s'il n'y a pas de désir, il n'y a plus de vie ». Ou « qu'est-ce que serait notre vie si il n'y avait pas de désir ?» Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la notion de plaisir, et on l'a vu ça le mois dernier. Hein? Mais l'attachement à ce plaisir, est-ce que ça vient perturber la paix de l'esprit? Et ça, nous devons pouvoir répondre chacun. Par rapport à cela. Si nous ne faisons pas l'expérience de cela, nous ne serons pas vraiment motivés pour transformer le comportement de notre esprit, ou alors on le fera par dévotion pour un grand maître, par une foi quelconque dans le Dharma, mais tout ça, ça n'est pas suffisamment solide pour vraiment nous mettre le pied véritablement à l'étrier de la pratique. Il y a une notion hein, dans le Dharma qui revient fréquemment, que les Tibétains aiment bien nous rappeler, et qu'en Occident, quand ils nous le rappellent, on se dit « oh, ça y est, c'est reparti », et on n'a pas trop envie de parler de ça, c'est le dégoût du samsara. Et c'est curieux, parce que le dégoût du samsara, c'est une expression qu'on n'utilise plus en Occident. On parle plutôt, comment on dit, c'est plus le dégoût du samsara, on parle de la lassitude du samsara, c'est plus soft comme terme, hein, mais être dégoûté du samsara. Mais c'est quoi le samsara? Le samsara, c'est pas le monde dans lequel nous vivons, ça c'est une présentation extérieure du samsara. Le mot samsara veut dire souffrance, mais le samsara, c'est notre esprit. Lorsque notre esprit souffre, on est en plein dans le samsara, quoi. Alors, avoir le dégoût du samsara, ça veut dire, eh bien, en avoir marre de cette souffrance que nous pouvons éprouver. Et quand on parle de la souffrance, c'est pas forcément la grande souffrance liée à la mort d'un proche ou à la maladie, à notre maladie, etc. C'est l'insatisfaction que nous pouvons éprouver à longueur de journée. Est-ce que nous pouvons dire que nous n'avons pas éprouvé le samsara depuis ce matin que nous nous sommes réveillés jusqu'à maintenant? C'est-à-dire la moindre frustration, la moindre insatisfaction, les choses n'allant pas exactement comme on voudrait qu'elles aillent, eh bien, ça crée quelque chose dans notre esprit en termes d'insatisfaction, de oh, on aimerait que ça aille autrement, etc. Bon, ben ça c'est dukkha, c'est ça le samsara. Et on vit tous cela à longueur de journée. Les Rinpoché vivent cela à longueur de journée aussi. exactement comme nous le vivons. C'est-à-dire que les situations qu'il rencontre sont exactement les mêmes que nous rencontrons. Il n'y a pas de différence. Et les situations ne deviennent pas positives parce que c'est un Rinpoché. Il vit exactement les mêmes choses que nous. Si son train a du retard, s'il est malade, si quelque chose ne va pas comme ça devrait aller, eh bien, il se passe quand même quelque chose dans l'esprit du Dalai Lama ou dans l'esprit de tous les grands pratiquants. C'est pas un esprit qui ne ressent plus rien. Mais simplement, dès que ça s'élève, leur esprit aborde ce phénomène qui s'élève dans leur esprit, la frustration, par exemple, d'une façon différente que nous l'abordons. Et la façon dont ils l'abordent, eh bien, c'est d'être conscient de la présence de cette frustration, mais de laisser passer, de ne pas s'accrocher à cette frustration. Et ça, nous devons absolument valider cette expérience-là. Est-ce que quand nous laissons passer le phénomène qui s'élève dans notre esprit, eh bien, notre esprit reste tranquille? Et ce n'est pas de l'indifférence. Il faut vraiment expérimenter cela pour voir que ce n'est pas de l'indifférence. Mais il y a une stabilité, une tranquillité intérieure stable qui se maintient malgré la présence eh bien, de cet élément qui fait naître la frustration. Donc il faut bien comprendre que quand on dit se libérer de dukkha, ça ne veut pas dire que la frustration ne sera plus présente dans notre esprit. Elle continuera de s'élever. Il ne faut pas imaginer que parce que vous êtes frustré à cause d'une situation, eh bien, vous n'êtes pas sur le chemin. Mais c'est comment on vit cette frustration. Si on s'accroche à cette frustration, alors c'est clair que le samsara apparaît immédiatement dans l'esprit. Parce que ça devient inconfortable pour l'esprit, perturbateur pour l'esprit. Mais si on est conscient de la présence de cette frustration et qu'on laisse passer cette frustration, mais combien de temps va-t-on être frustré? Peut-être un peu plus longtemps au début. Mais avec l'entraînement, la frustration, eh bien, même si elle est présente, l'esprit n'est plus identifié ou scotché à cette frustration. Donc, malgré cette impression ou cette sensation de frustration, l'esprit n'en souffre pas, en est totalement libre. C'est ça, en fait, l'objectif de la pratique. Ce n'est pas faire disparaître les situations ou les phénomènes. Les phénomènes apparaissent à partir de causes et de conditions, et ma foi, s'il y a les causes et les conditions pour qu'un phénomène apparaisse, eh bien, il va apparaître, que cela nous plaise ou non, le phénomène va se mettre en place. Si nous n'avons pas envie d'être malade, demain, à cause de l'impermanence, même si ce soir nous sommes en bonne santé, l'impermanence de la bonne santé, c'est la maladie, quoi. Et que cela nous plaise ou non, un jour, il va falloir faire face au fait d'être malade. Et c'est là où tout est la différence entre quelqu'un qui ne transforme pas son esprit et quelqu'un qui transforme son esprit. Un Rinpoché, face à la maladie, oui, c'est clair, son esprit ne réagit pas comme nous pouvons réagir au fait d'être malade, et etc., etc. Donc ça, c'est tous les éléments qui, dans notre pratique, nous montrent que nous pratiquons ou pas. C'est comment nous réagissons dans notre vie quotidienne. Quand on a l'impression d'avoir la tête dans le guidon et d'être overbooké de tout ce qui nous arrive, souvent on a envie de partir en vacances et de tout lâcher, de partir en vacances un mois. Mais on peut aller à 10 000 km sous les cocotiers, notre esprit, on ne laisse rien, je veux dire, à l'aéroport, quoi. On part avec, comme disent les Alsaciens, avec le rucksack et bien rempli, quoi. Et c'est pareil, allez vous enfermer 8 jours en retraite, vous verrez que vous entrez dans votre chambre de retraite avec le sac à dos, hein, et que vous ne laissez absolument rien, mais rien derrière la porte, quoi. Au début, on a l'impression qu'on laisse tout derrière la porte parce qu'il y a une situation nouvelle qui fait que on vit le changement de la situation, en apparence transforme ou apaise l'esprit. Puis au bout de 2 jours, on commence à trouver le temps long. Le troisième jour, en général, on s'ennuie à mourir. Et le quatrième jour, on se rend compte qu'on est dans la chambre avec tout le fatras de ce fonctionnement de l'esprit et qu'on n'a rien laissé dehors, quoi. Donc ça, c'est tout le but de la méditation, hein. Et évidemment que nous devons entraîner notre esprit dans des circonstances favorables, paisibles, régulières. Donc c'est pourquoi il est vraiment fortement conseillé de méditer tous les jours. Méditer tous les jours, ça ne veut pas dire méditer quand on veut. Ça veut dire méditer tous les jours. Et que l'on ait envie ou pas de méditer ce jour-là, comme disait Bhikkhu Rinpoché, après tout, vous mangez bien tous les jours, quoi. C'est un peu la même façon. C'est un engagement qu'on prend avec soi-même et on se dit, eh bien, même si aujourd'hui je n'ai pas envie de méditer, ok, je ne vais pas me coucher sans avoir passé mon temps de méditation. Et c'est pourquoi, je redis pour les personnes un peu nouvelles dans la pratique, c'est pourquoi il ne faut pas prendre un engagement de méditer une heure par jour. Commencez par 20 minutes, une demi-heure, maximum. Parce que si vous prenez l'engagement de méditer 20 minutes, si au bout de 10 minutes vous vous ennuyez fortement, bon, vous n'avez quand même plus que 10 minutes à tirer, quoi. Et là, ça, c'est supportable. Mais si vous méditez et qu'au bout de 10 minutes, vous vous ennuyez et que vous avez encore 50 minutes à faire, eh bien, vous savez, le lendemain, l'esprit va trouver 1000 excuses pour ne pas retrouver votre coussin, hein. Et faites-lui confiance, il est extrêmement rusé pour avoir, pour trouver 1000 activités à faire plus importantes que de méditer, hein. Donc, méditer veut dire apprivoiser l'esprit, entraîner l'esprit. Voilà. Mais sans cet entraînement, il n'y aura pas transformation de l'esprit. Hein. Ceux qui pensent que dans le bouddhisme, et surtout le bouddhisme tibétain, le Vajrayana, il va y avoir un miracle qui va se produire parce que vous avez une dévotion pour tel maître, ou parce que vous avez une connexion avec tel maître et que celui-ci, lorsqu'il vous pose la main sur la tête, vous avez l'impression que il y a un éclair spirituel qui vous traverse, ne comptez pas là-dessus, hein. J'ai vu des gens qui... des personnes qui fonctionnaient de cette façon-là, sur leur lit de mort, ça a été la panique, hein, parce qu'il n'y avait pas de miracle qui se produisait à ce moment-là sur leur lit de mort, et qu'elles étaient seules à faire face, eh bien, au fait de mourir. Notre façon de mourir sera vraiment le fruit de l'entraînement de notre esprit, le fruit de notre pratique, hein. Ne comptez pas sur Dalai Lama qui sera présent ce jour-là au pied de votre lit. Donc nous avions vu la dernière fois que comment transformer la haine, aversion, le désir, attachement et l'aveuglement ou l'opacité mentale ou l'indifférence, hein, selon le Mahayana Sutra. En fait, si on veut résumer, c'est ne pas s'accrocher à ces facteurs perturbateurs lorsqu'ils s'élèvent, mais en plus, c'est voir qu'il y a toute une énergie présente dans l'esprit lorsque nous avons ces facteurs perturbateurs dans notre esprit. Donc, il est important, en fait, de changer notre regard par rapport à ces facteurs perturbateurs. Jusqu'à présent, nous avions tendance à les condamner ou à les considérer comme quelque chose de vraiment négatif dont il faut absolument se défaire. Et ça me rappelle que quand on était entré en retraite de longue durée, il y avait un lama qui nous avait dit « ne craignez pas les facteurs perturbateurs ». Et je n'avais absolument pas compris ce jour-là ce que ce lama nous disait, parce que, comme je dis souvent, moi je rentrais avec un bazooka quoi dans ma cellule. Et que lorsqu'il y avait un facteur perturbateur qui allait se pointer, j'étais prêt à le descendre, quoi. Et en fait, on ne peut pas travailler sur les facteurs perturbateurs de cette façon-là. Il faut voir qu'ils ne sont pas un danger par nature. Ils ne sont pas un danger en eux-mêmes. Ça demande à vraiment modifier notre regard sur les facteurs perturbateurs. Depuis toujours, on nous dit qu'il ne faut pas être en colère, que c'est mal d'être en colère, par exemple. Mais est-ce que la colère est négative en elle-même? Est-ce que la colère est négative par nature? Non, c'est comment je réagis par rapport au fait d'avoir de la colère dans mon esprit qui est le problème. Et ça, nous devons absolument expérimenter que cette énergie, elle est extrêmement puissante. Quand nous sommes en colère, il y a énormément d'énergie dans notre esprit. Mais si je ne m'identifie pas, si je la laisse passer, est-ce qu'elle perturbe mon esprit? Est-ce que je suis en état d'exprimer par le corps, par des paroles, par exemple, l'état de colère? Ou au contraire, si je ne m'identifie pas, bien qu'elle soit toujours là, et le temps qu'elle soit là, mon esprit reste paisible et donc je peux rester tranquillement assis. C'est là où il y a transformation de ce facteur perturbateur. Mais si nous la craignons dès le départ, comment pouvoir l'observer? Comment pouvoir la regarder et se dire « oui, j'ai de la colère, mais en fait, il n'y a pas de problème ». C'est-à-dire déjà rester tranquille et avoir une distance par rapport au fait d'avoir cette colère. C'est très difficile si on a cette façon d'analyser ou de concevoir la colère comme quelque chose de négatif en soi. Après tout, ça peut être logique d'avoir de la colère dans notre esprit. Et il y a une situation qui fait naître cette colère. Donc il n'y a pas à la condamner. Laissons-la. Prenons conscience de cette énergie-là et restons tranquilles, laissons-la passer. Pour le désir attachement, c'est exactement la même chose. Ça peut être extrêmement puissant puisque le désir est le moteur en fait de toute notre façon de vivre aujourd'hui. Donc c'est une énergie extrêmement puissante. Et pour l'aveuglement, identique. Et ça, ce sont les trois facteurs perturbateurs les plus puissants dans l'esprit. On dit que ce sont les trois poisons de l'esprit parce que, en fait, c'est ce qui dirige le monde, c'est la soumission à ces trois facteurs perturbateurs, qui fait que, nous agissons, que tous les êtres agissent aujourd'hui. Si vous regardez toutes les catastrophes que les êtres produisent sur d'autres êtres, vous trouvez un de ces trois facteurs perturbateurs à l'origine des actes que ces êtres commettent, soit par haine, soit par avidité ou possessivité, soit par totale indifférence. Et on appelle ça les trois poisons de l'esprit parce que c'est toujours présent dans nos actions. Donc en fait, quand on agit sous l'emprise de ces facteurs perturbateurs, nous n'agissons pas vraiment. Nous sommes en état de réaction, mais nous ne sommes pas dans l'accomplissement de ce qu'on appelle un acte juste. Parce que notre acte n'est pas libre. Il est soumis à cette façon de réagir. Alors, le texte sur lequel je m'appuie, c'est un enseignement du précédent Kalua Rinpoche. Transformation de l'orgueil. Je suis meilleur que les autres, je suis très intelligent, je suis important. Ces pensées caractéristiques d'un fort attachement au moi constituent l'orgueil. Lorsqu'il se produit, on reste neutre vis-à-vis de lui, sans le rejeter ni le suivre. Donc ça, c'est très important aussi. Sans le rejeter, ni le suivre, mais sans le rejeter non plus. Et ça, c'est valable pour tous les facteurs perturbateurs. On demeure simplement l'esprit posé dans ce sentiment sans distraction. Dès lors, cet orgueil, comparable à une montagne, se trouve naturellement aplani. Le moi perd sa surévaluation. Alors, ça, c'est toujours l'expérience à faire dans tout ce travail sur les facteurs perturbateurs, qui consiste à, si je ne m'identifie pas à ce facteur perturbateur, la puissance de ce facteur perturbateur, en fait, n'est plus alimentée, on va dire, et n'est pas durable. Ce facteur perturbateur est un phénomène, et comme tous les phénomènes, il est totalement impermanent. L'orgueil, c'est vraiment le facteur perturbateur le plus subtil à déceler. Et bien souvent, nous avons besoin d'un miroir pour savoir que l'orgueil est présent dans notre esprit. Le miroir, c'est le maître. C'est vraiment les Rinpoche, ils ont une attitude qui reflète notre orgueil. Et on peut être quelquefois déçu par l'attitude ou par la réponse que donne un Rinpoche quand on va le voir et qu'on lui pose une question ou on lui fait part de notre pratique. Et Rinpoche Rinpoche, ça c'est vraiment le plus, c'est le plus classique quand vous allez lui parler de votre pratique et que vous adoptez évidemment une attitude extrêmement humble parce que vous ne voulez pas tomber dans l'orgueil et que vous lui expliquez votre expérience de pratique. Et il vous regarde, il sourit, il dit « Oui, une autre question ?» Et là, vous voyez tout de suite si vous avez de l'orgueil ou pas. Hein. Parce qu'en général, c'est « Attends, j'ai attendu un quart d'heure avant d'avoir l'entretien et c'est tout ce qu'il répond à mon expérience de méditation. » Tout juste si on se dit « Mais il se moque de moi ou quoi ?» voilà. Et en général, c'est il reflète en fait que dans notre attitude, eh bien, il y avait de l'orgueil. Je connais quelqu'un qui, un Rinpoche, qui est vraiment son maître, eh bien, un jour, ce Rinpoche l'a mis dans une situation où il a été obligé, mais obligé de voir que, eh bien, il avait beaucoup d'orgueil. Or, il était absolument certain de ne pas en avoir. Et quand il a compris qu'il avait effectivement de l'orgueil, grâce à son maître lui a dit, eh ben voilà, maintenant tu viens de faire un grand pas dans le cheminement, parce que il est très difficile de se savoir orgueilleux. Et ça, c'est donc pas toujours très confortable quand, eh bien, on nous reflète notre orgueil. Hein. Toujours au sujet de l'orgueil, dans la mesure où l'on apprend à méditer de cette manière, les nombreuses occasions où s'élève l'orgueil dans notre esprit s'avèrent très profitables, car elles deviennent le support du développement de la cinquième paramita, celle de la concentration. Oui, il faut être extrêmement concentré pour voir l'apparition de l'orgueil. Il faut être toujours dans un état en fait de vigilance. Donc c'est un très bon exercice pour développer la concentration. Et en même temps, l'orgueil naît de l'assimilation à un moi lorsqu'il s'efface du fait que nous regardons son essence, laisse place à la perception de l'absence de moi. Ben oui, qui est orgueilleux? Qui est ce moi qui se gonfle? Et donc il y a toujours dans le travail sur les facteurs perturbateurs la présence de la bodhicitta ultime. On parlait de la bodhicitta relative tout à l'heure, mais il y a toujours la présence de la bodhicitta ultime. C'est-à-dire, en fait, les phénomènes sont sans existence propre, ils sont tous dépendants de causes et de conditions pour apparaître, et ce moi qui se sent si orgueilleux, quelle est sa véritable nature? Et ça, c'est vraiment la pratique de l'Aktong, la vision pénétrante. Et nous devons absolument passer par ce travail analytique sur la nature du moi, comprendre par l'analyse, par l'observation, à quoi il ressemble. Est-ce que vraiment il est tel que je l'imagine ? Puisque cette notion d'un moi est vue comme quelque chose en termes d'entité autonome, unique et permanente. Est-ce que vraiment cette conscience, cet esprit peut être assimilé à ce moi en termes d'entité unique, autonome et permanente? Et ça, c'est toute l'approche analytique de l'Aktong, la vision pénétrante. Et ceux qui sont dans le Mahamudra 2, hein, on est en plein là-dedans pour le moment. Et nous avons lu des tas d'ouvrages sur la vacuité du moi, sur le non-soi des phénomènes, sur le non-soi de l'individu. On connaît tout ça par cœur. Mais il y a le fait de connaître cela intellectuellement n'a pas fait bouger d'un iota la conception de l'existence d'une telle entité. Donc, si cette approche analytique, elle est importante, elle doit nous amener à vraiment une certitude quant à la nature même de ce moi, en quoi cette conception d'une telle entité unique, autonome et permanente ne correspond pas à la réalité, mais nous devons ensuite expérimenter cela par la méditation, parce que cette compréhension intellectuelle ne suffit pas pour déraciner cette conception d'une telle entité. de l'existence d'une telle entité. Et donc nous avons besoin de cette approche analytique, mais nous devons absolument aller plus loin. C'est le problème de beaucoup d'Occidentaux qui comprennent intellectuellement le non-soi, par exemple, de l'individu. Non-soi des phénomènes, c'est plus facile. Mais le non-soi de l'individu, ils le comprennent très bien intellectuellement. Et ils peuvent s'alimenter de tous les traités de Nagarjuna à ce sujet, de Chandrakirti, enfin tous ces grands maîtres sur, qui ont écrit des traités extrêmement poussés sur, sur ce qu'on appelle la vacuité ou le non-soi de l'individu. Hein, mais qui ont toujours un moi extrêmement fort et affirmé. En cela, on constate que cette approche analytique n'a pas le pouvoir de transformer l'esprit. Alors elle est nécessaire, mais on doit absolument ensuite mettre en pratique, entraîner notre esprit à vraiment appliquer la certitude ou la compréhension qu'on a de par cette approche analytique. Voilà. Il y a un autre problème chez les Occidentaux, c'est qu'ils mettent de côté d'emblée l'approche analytique, en se disant on n'est pas là pour faire une étude intellectuelle du moi. Bokhar Rinpoche disait attention, ça c'est un autre défaut des Occidentaux, vous ne passez pas suffisamment de temps sur l'approche analytique. Nous avons besoin d'utiliser notre intelligence pour comprendre en quoi, ou pour comprendre où se situe l'erreur dans notre conception. Et une fois que nous l'avons comprise, alors ensuite nous pouvons mettre en pratique. Mais nous devons arriver à cette certitude qu'il y a une erreur dans notre façon de concevoir le moi. Le moi n'est pas cette entité, c'est quelque chose qui définit tout un ensemble de choses. Donc le moi n'est pas... n'est pas inexistant, mais il n'existe pas tel qu'on le conçoit, tel qu'on l'imagine. Voilà. Et c'est ça qu'il faut, en fait, déraciner. Voilà. L'éveil, ce n'est pas quelque chose qui va se rajouter à ce que nous avons. C'est quelque chose qui disparaît. L'éveil, c'est quand cette notion d'entité unique, autonome et permanente disparaît. Ça ne veut pas dire que le moi va disparaître. Mais le moi va être vu pour ce qu'il est et pour ce qu'il a toujours été. Et c'est là où on va comprendre que, tel que je le concevais, c'est là où il y a une erreur. Et c'est pourquoi le Dharma ou pourquoi le Bouddha parlait de l'illusion du moi, parce que cette conception du moi ne correspond pas à ce qu'il est réellement, et on est donc dans l'illusion, on pense que le moi existe de telle façon. Mais c'est une illusion parce que le moi n'a jamais existé de cette façon-là. Et on comprend à ce moment-là que le moi existe de façon, ce qu'on trouve dans les textes, de façon relative ou de façon conventionnelle. Mais non pas de façon ultime. Donc l'absolu, dans le Dharma, c'est qu'il n'y a rien d'absolu. Voilà. On pourrait résumer à ça, quoi. Hein. Transformation de la possessivité. Nous sommes tous marqués par l'ensemble des émotions conflictuelles. Parmi elles, la possessivité, s'appliquant aussi bien à notre corps, à notre maison, à n'importe lequel de nos biens, est toujours très présente et très forte. Quelle que soit la forme qu'elle prend plus particulièrement pour nous, nous pouvons la neutraliser par le don pratiqué à différents degrés. Le don de biens matériels étant le premier degré, le don de sa famille le second, le don de son sang et de sa chair constituant la forme la plus élevée. Le Mahayana offre ainsi une grande variété de moyens permettant mettant en œuvre la générosité pour supplanter la possessivité. C'est pourquoi, par exemple, au moment de notre mort, il est dit que, la première des graines blanches, vous savez, qu'on met en place quand, pas dans le cas d'une mort subite, mais quand on nous annonce que, nous avons une maladie et que l'issue est inéluctable, il y a toute une façon de se préparer à notre mort, et la première de ces façons, c'est de liquider nos possessions, quoi. C'est d'en faire don. Alors bien sûr, on peut en faire don à notre famille, on en fait don à qui en a besoin, etc. Mais de toute façon, les garder n'importe comment, ça ne va rien résoudre, puisque le jour où on sera mort, eh ben, on n'emporte rien de l'autre côté. Regardez toutes les dans cette possessivité, par exemple, à nos biens. Vous n'avez jamais eu ce sentiment lorsque vous allez dans une brocante et que vous voyez tous ces vieux objets qui ont appartenu à des personnes plus anciennes que nous, combien en fait elles pouvaient être attachées à ces objets-là et qui se retrouvent là aujourd'hui en vente pour 1 euro recouvert de poussière, et ça n'a de valeur, mais alors vraiment pour personne. En fait, ces valeurs-là, c'était souvent des valeurs sentimentales, ce qu'elles représentaient pour cette personne. Mais qu'est-ce que ça devient après nous? Qu'est-ce que ça devient après nous? Regardez, même les maisons qu'on veut léguer à nos descendants, etc. Vous savez, quand vous êtes mort, ils vendent. Ils se séparent de ce que vous léguez, ils divisent, ils vendent. Ils en ont déjà peut-être tous une de maison, etc. C'est marrant, pour Noël, ma mère me parlait de ça. À la maison de mes parents, elle me dit, bah oui, qu'est-ce que vous allez en faire quand on sera plus là? Bah c'est clair, on va tous la vendre. Tout le monde a une maison dans ma famille. On va pas garder cette maison, personne n'y va, etc. quoi. Et pourtant, ben oui, je pouvais constater que mes parents sont très attachés à leur maison. Et ils savent très bien que ben, dans quelques années, puisqu'ils ont plus de 80 ans, le jour où ils vont partir, qu'est-ce qui va rester de cette maison? Voilà. Et en fait, ça permet de relativiser aussi notre attachement par rapport à toutes nos possessions. Et on peut être vraiment très fortement attaché à tout cela. Est-ce que notre esprit est vraiment paisible lorsqu'il est dans cet esprit de possessivité, quoi? Ça, c'est à observer. Du point de vue de la méditation, d'où nous nous situons maintenant, quand se produit la possessivité, nous la traitons comme les émotions précédentes, sans la suivre ni la rejeter. Nous demeurons simplement dans le sentiment qui en est la base. De la sorte, la possessivité ordinaire deviendra un sentiment d'aise, neutre, duquel s'effacera spontanément le caractère nuisible. La possessivité disparaissant, elle est automatiquement transformée en son contraire, c'est-à-dire une générosité fondamentale. Et ça, on peut expérimenter ça simplement par rapport à des objets auxquels nous sommes attachés. Quand on se libère de cet attachement par rapport simplement à sa collection de timbres, par exemple, hein, mais quand dans l'observation de cette possessivité qui s'élève vis-à-vis de cet objet, et qu'on se libère de cette possessivité, mais qu'est-ce qui prend place dans l'esprit à ce moment-là? C'est vraiment un état de générosité. Et quand c'est le moment où on devient libre de cette possessivité, eh bien, on est capable dans l'instant de donner cet objet, d'offrir cet objet. Et ça, c'est aussi à observer et à remarquer comment fonctionne notre esprit par rapport à cela. Et si nous entraînons notre esprit à faire cet exercice-là à chaque objet pour lequel nous développons cette possessivité, eh bien, on prend conscience en même temps qu'il y a une très forte générosité dans notre esprit. Simplement, c'est cette possessivité, eh bien, qui fait obstacle à cette générosité. Alors là, ça touche un autre aspect des facteurs perturbateurs, c'est qu'ils font vraiment obstacle à l'expression de toutes les qualités de générosité, d'amour, de compassion, de joie, de paix de l'esprit, etc. Et on voit que tous ces facteurs perturbateurs, eh bien, sont comme un couvercle qui empêche le développement de ces différentes qualités qui nous habitent et que nous avons tous et qui peuvent être extrêmement puissantes. Et il n'y a pas tellement à se forcer pour vraiment qu'elles deviennent puissantes. Elles s'expriment avec toute cette puissance lorsque le moi disparaît. Et ça, vous qui avez des enfants, je reprends souvent cet exemple, mais pour les personnes ici qui avaient des enfants, il y a bien eu des moments dans votre existence, par rapport à votre enfant par exemple qui était malade, qui souffrait, et que le fait de le voir souffrir vous était insupportable, à un moment donné, vous vous êtes sans doute dit, puissais-je moi souffrir, mais que mon enfant ne souffre plus, quoi. Et ça, il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans l'esprit que vous avez pu ressentir à ce moment-là. Pourquoi vous l'avez ressenti? Parce que votre moi s'effaçait complètement devant la souffrance de votre enfant. Et ça, ça montre, ça prouve que lorsque le moi s'efface, lorsque la saisie égotique s'efface, alors il y a ces qualités qui sont présentes en nous qui peuvent s'exprimer, mais alors avec une extrême puissance. Et je pense que ça, en tant que parent, vous l'avez tous vécu. Je l'ai même vécu avec mon chien. Alors je pense qu'avec un enfant, vous avez dû le vivre et peut-être plus d'une fois, quoi. Hein? Mais ça montre bien qu'à ce moment-là, il n'y avait plus le moi qui s'imposait, mais le moi s'effaçait par amour. Et cette puissance-là, alors, elle pouvait mais vraiment être vécue comme avec cette puissance-là. Hein? Donc ça, c'est dans la possessivité, eh bien quand on travaille sur la possessivité, on sent la puissance de cette générosité présente dans notre esprit. Enfin, la transformation de la jalousie. La jalousie est comparable à une épine. Elle pique non seulement les autres, mais elle se retourne aussi contre celui qui la conçoit, le mettant très mal à l'aise et le rendant très malheureux. Chaque fois que la jalousie s'élève, demeurant simplement posée en elle, sans la suivre ni la rejeter, elle ne pourra que s'apaiser automatiquement, elle ne pourra aucunement « piquer », entre guillemets. Elle rejoindra spontanément son essence, qui est la paix intérieure. La jalousie est ainsi transformée en paix, en même temps que du point de vue des six paramitas, elle se trouve associée à la quatrième, la diligence. Voilà. Alors, ça aussi, nous ne sommes pas exempts. De la jalousie. Alors il y a dans d'autres textes où on dit que l'antidote de la jalousie, c'est le fait de se réjouir de ce qui peut arriver à l'autre. On voit ça dans l'Ujong, l'entraînement de l'esprit en 7 points. Le fait de se réjouir de ce qui peut arriver de positif à l'autre, ça permet d'être l'antidote de notre jalousie. On peut être malade de la jalousie. Et pendant des années, vous avez des membres d'une même famille qui, par jalousie, ne se parlent plus depuis 20 ans, hein, par exemple. Hein. Tous les facteurs perturbateurs, en fait, sont créés de la souffrance quand notre esprit est sous leur emprise. Et c'est ça qu'il faut vraiment bien voir, bien comprendre, de façon à pouvoir ensuite admettre que nous devons travailler sur ces facteurs perturbateurs. C'est sur la saisie qui fait naître ces facteurs perturbateurs et comment notre esprit les saisit eux-mêmes et s'identifie à ces facteurs perturbateurs, voir que s'identifier à ces facteurs-là, ça les amplifie, ça les maintient et ça décuple en plus leur puissance, et c'est sous leur emprise, ou sous l'emprise de cette saisie, que nous agissons par le corps, par la parole et la pensée de façon négative. Mais qu'en eux-mêmes, ils ne sont pas dangereux. Et ça, c'est toute l'avancée, je dirais, du Mahayana, c'est de considérer que ces facteurs perturbateurs, en essence, ne sont pas dangereux. Et ça, c'est très important à en faire l'expérience, parce que dans le Vajrayana, non seulement nous comprenons qu'ils ne sont pas dangereux, mais puisqu'ils ne sont pas dangereux, alors comment nous allons pouvoir les utiliser pour vraiment s'en servir? Et ça, c'est propre au Vajrayana. Mais si nous n'avons pas compris qu'en essence, ils ne sont pas dangereux, et si nous n'avons pas développé non plus dans notre esprit le renoncement à les saisir ou à s'identifier à ces facteurs perturbateurs lorsqu'ils sont présents, nous ne pourrons absolument pas les transformer. C'est pourquoi il est dit dans le Vajrayana que pour utiliser les facteurs perturbateurs, nous devons d'abord développer les deux piliers du Vajrayana, qui sont premièrement le renoncement, à la souffrance et aux causes de la souffrance. Et le deuxième pilier du Vajrayana, c'est la bodhicitta. C'est comprendre, dans la bodhicitta ultime, que si je suis soumis à ces facteurs-là, eh bien je ne peux pas être un bodhisattva parce que sous leur emprise, je vais accomplir des actes négatifs qui vont être cause de souffrance pour moi-même et pour autrui, mais aussi par rapport à la bodhicitta ultime, c'est-à-dire que par essence, eh bien, ces facteurs perturbateurs sont entièrement vacuités, ils n'ont pas d'existence propre, ils apparaissent tous à partir de causes et de conditions. Et ça, on ne peut pas aborder l'utilisation des facteurs perturbateurs selon le Vajrayana si nous n'avons pas développé ces deux aspects de renoncement et la bodhicitta. Tous les Occidentaux qui se sont lancés à pieds joints dans les facteurs perturbateurs en se disant « je suis pratiquant du Vajrayana, donc je les transforme », eh bien, ne les transformaient en rien du tout. Et comme disait Bhikkhu Rinpoche, ces pratiquants-là n'ont rien compris au Vajrayana, mais non seulement ils n'ont rien compris au Vajrayana, ils n'ont rien compris au Dharma tout court. Donc, même si nous sommes dans le Vajrayana, nous devons quand même développer eh bien, le renoncement à se mettre en colère et l'apprentissage de la bodhicitta relative et ultime par rapport au fait d'avoir ces facteurs perturbateurs. Et c'est pourquoi ces pratiques du Vajrayana qui vont utiliser ces facteurs perturbateurs eh bien, ne sont pas enseignées directement. Et je dois même dire qu'elles sont de moins en moins enseignées en Occident aujourd'hui. Rinpoche Rinpoche, par exemple, ne parle pas de ces transformations-là. Mais c'est vrai qu'il y a des pratiques qui vont les utiliser parce que ce sont des énergies extrêmement puissantes, donc si on sait les utiliser, eh bien elles vont devenir ces énergies vont être canalisées et devenir par là même un puissant moyen pour réaliser l'éveil. Mais si on ne sait pas les utiliser, alors en utilisant ces énergies là, eh bien elles vont aggraver les facteurs perturbateurs et donc les actes négatifs qui risquent d'en découler. Et c'est pourquoi on parle du Vajrayana en termes de pratique, comment dire, ça peut être positif, mais ça peut être négatif aussi. Parce que si on sait vraiment utiliser les moyens du Vajrayana, c'est extrêmement puissant et positif, et extrêmement rapide comme voie de l'éveil, mais si on ne sait pas les utiliser, eh bien ce sont des méthodes eh bien, qui vont aggraver les facteurs perturbateurs. Donc, nous enferrer davantage dans le samsara et aller à l'encontre de la libération. Or, toute méthode du dharma vise à la libération. Donc, c'est pourquoi ces méthodes ne sont pas enseignées comme ça directement. Et elles sont de moins en moins enseignées aujourd'hui en Occident. Pourquoi ? Parce que eh bien, les Occidentaux passent directement au Vajrayana et ne passent pas par les étapes précédentes. Et je suis désolé, le dharma, c'est une voie progressive. Et il ne s'agit pas on n'a pas été en fac sans passer par la sixième, quoi. Et bien, c'est pareil, en fait, pour notre cheminement spirituel. Alors maintenant, il y a une autre façon aussi d'aborder l'ensemble de ces facteurs perturbateurs. Et ça, c'est développé dans la pratique de Lojong, l'entraînement de l'esprit en 7 points. Quand il y a apparition d'un facteur perturbateur dans notre esprit, on prend conscience que ce facteur perturbateur, il s'élève de l'esprit, il demeure dans l'esprit et il s'efface, il disparaît dans l'esprit. Donc ce n'est rien d'autre que l'esprit. Donc il est de même nature que l'esprit. Là, on peut conclure que c'est une projection ou une émanation, une manifestation de l'esprit. L'esprit étant vu comme vide d'existence propre, ce facteur perturbateur est de même nature. Il est donc vu comme vide d'existence propre. Et de toute façon, par analyse, il est vide d'existence propre. Puisqu'il ne peut, la colère, par exemple, ne peut pas apparaître comme ça dans l'esprit. Il y a toujours une cause ou des causes qui font naître la colère dans notre esprit. Si vous éliminez ces causes-là, eh bien, la colère ne peut pas apparaître Donc elle est bien dépendante de plusieurs éléments, de plusieurs facteurs. Maintenant, le fait que ce facteur perturbateur soit une énergie et que l'on puisse goûter à cette puissance de l'énergie présente dans l'esprit, sous cette forme de facteur perturbateur. Et ça, on l'a vu dans la transformation des facteurs perturbateurs selon le Mahayana, notamment le mois dernier. C'est ce qu'on appelle à ce moment-là le Sambhogakaya. Le fait que ces facteurs perturbateurs sont vides d'existence propre, c'est ce qu'on appelle le Dharmakaya, c'est-à-dire le corps absolu. Le fait que ce soit une énergie, c'est vu comme la dynamique de l'esprit. Et cette dynamique de l'esprit, c'est ce qu'on appelle le Sambhogakaya, le corps de gloire. Hein, c'est-à-dire le corps de gloire, le rayonnement de l'esprit. La dynamique de l'esprit. Et enfin, le fait que ce facteur perturbateur soit de la colère, ou que celui-ci ce soit de la jalousie, etc., c'est-à-dire, entre guillemets, le contenu de ce facteur perturbateur, c'est-à-dire la forme que prend ce facteur perturbateur, eh bien c'est vu comme le corps de manifestation de l'esprit, c'est-à-dire le nirmanakaya, le corps d'émanation, le corps de manifestation. Voilà. Ça, c'est une autre façon d'aborder les facteurs perturbateurs, selon ce qu'on appelle les trois corps éveillés. Notre esprit est vide d'essence propre, ça c'est Dharmakaya, corps absolu. Il a une dynamique, ça c'est le Sambhogakaya. Le Sambhogakaya, ou le corps de gloire, cette dynamique, c'est toujours vu selon les qualités. L'amour, la joie, la compassion, et c'est ce qui est représenté dans le Vajrayana par les Yidam, Chenrezi, à quatre bras, hein. Eh bien, Chenrezi, c'est l'amour, la compassion. Mais il n'y a pas que les qualités qui sont la dynamique de l'esprit. Ces facteurs perturbateurs sont aussi la dynamique de l'esprit. C'est l'énergie aussi de l'esprit. Donc, ils sont de même nature que les qualités. C'est Sambhogakaya aussi. Et puis, en fait, le contenu ou la manifestation même que l'on peut étiqueter en tant que colère, en tant que jalousie, en tant qu'orgueil, etc. Eh bien ça, c'est, on va dire, la forme ou le corps formel que prennent ces énergies-là. Et donc, c'est ce qu'on appelle le corps d'émanation, le corps de manifestation, le nirmanakaya. Toute la manifestation, tous les phénomènes, tels qu'ils sont dans leur manifestation, eh bien, c'est associé au nirmanakaya, au corps d'émanation. Notre corps, par exemple, est vu comme étant un nirmanakaya. Nirmanakaya, en tibétain, se dit tulku. Donc, quand on dit qu'un enfant, c'est un tulku, littéralement, ça veut dire que c'est un corps d'émanation. Juste pour l'exemple, le Dalai Lama est vu comme étant le tulku ou la représentation de Chenrezi. On dit que le Dalai Lama, c'est l'expression de la compassion de Chenrezi. En tant qu'esprit, son esprit est Dharmakaya, corps de vacuité, comme l'esprit de tout le monde. Sa dynamique, c'est effectivement la compassion. Donc ça, c'est le Sambhogakaya. Et donc, on peut se représenter le Dalai Lama, par exemple, sous la forme d'un Yidam tel que Chenrezi, puisque, en fait, il traduit ça, il représente ça. Et quand on rencontre le Dalai Lama, effectivement, c'est ce qu'on peut ressentir chez lui. Mais la forme que le Dalai Lama a aujourd'hui en tant que personne humaine, eh bien, c'est le Nirmanakaya, c'est le corps d'émanation, le corps de manifestation. Ces trois corps sont absolument indissociables. L'un ne peut pas exister sans les deux autres. Et il n'y a que le corps d'émanation qui, pour apparaître, est soumis à des conditions. Le corps d'émanation, le corps physique, il faut quand même papa-maman. Hein. Sans cela, ça ne marche pas. Et même si avec la science on trouve d'autres moyens un jour pour faire apparaître un individu, il faudra quand même, peut-être quand même, quelques cellules comme souche. Hein. Mais il faudra toujours, ça ne va pas apparaître comme ça. Tout ce qui est conditionné est impermanent, soumis à la transformation et à la disparition. Voilà ce qu'on appelle la mort. La mort, c'est en fait la disparition du corps d'émanation, le nirmanakaya. Quel est le début et la fin du dharmakaya? Si vous pouvez répondre à ça, la peur de la mort disparaîtra totalement. Réaliser l'éveil, c'est en fait réaliser l'indissociabilité de ces trois corps. Et c'est pourquoi quelqu'un qui a réalisé l'éveil, au moment de la mort, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il s'assoit parce que le nirmanakaya ne peut plus fonctionner et le nirmanakaya cesse de fonctionner. Et ça, c'est ce qu'on appelle la mort dans le monde ordinaire. Mais un individu qui a réalisé les trois corps a réalisé qu'il n'y a ni début ni fin au dharmakaya. Donc pour lui, la mort n'existe plus. Et en fait, c'est cette application, si vous voulez, de l'indissociabilité des trois corps, eh bien, que l'on peut appliquer dans tous les phénomènes que nous vivons au cours de notre vie. Donc ça, c'est une autre façon d'aborder aussi les facteurs perturbateurs et de voir que, eh bien, ils sont en fait totale sagesse par nature. Mais je répète, hein, faut pas vous dire, faut pas vous en aller ce soir en vous disant bon, eh ben si j'ai de la colère demain, c'est totale sagesse, donc je peux y aller, quoi. Ah, c'est quelque chose qu'on doit réaliser. Tant qu'on ne l'a pas réalisé, eh bien, il faut renoncer à la colère et développer la bodhicitta. C'est les deux piliers. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pardon? Alors, ne pas agir, ça ne veut pas dire ne pas agir. Ça veut dire ne pas agir sous l'emprise de la colère. Mais si la situation dans laquelle vous vous trouvez, qui a fait naître votre colère, demande un acte, là, vous agissez. Donc, ne pas agir n'est pas synonyme de passivité, hein, mais si vous pensez que cet acte est juste, alors vous accomplissez cet acte, mais ce ne sera pas un acte qui sera soumis ou dont l'esprit sera soumis à la colère. Donc il y aura toujours cette possibilité de discernement, de savoir s'il est juste, s'il est juste, comment l'accomplir sans blesser forcément l'autre, quoi. Hein? Et c'est ce que l'on veut dire dans l'expression du non-agir, quoi. Notre façon d'agir pour le moment, c'est en fait on réagit à telle situation. Mais dans le non-agir, les maîtres, par exemple, agissent complètement. Seulement, leur esprit est totalement libre dans cette façon d'agir. Et ça, c'est une grande différence.
Est-ce que dans le non-agir,
il y a forcément accueil pour qu'il n'y ait pas identification en fait aux facteurs perturbateurs. Ouais. S'il y a accueil, il y a détente et il y a non-identification aux facteurs perturbateurs. D'où l'importance de ne pas craindre les facteurs perturbateurs. Alors ça que... Ça peut demander un déconditionnement, hein, de notre, je sais pas, de peut-être notre éducation par rapport au fait d'avoir tel facteur perturbateur. Après tout, il y a des personnes, par exemple, chez qui c'est la colère qui est dominante, et on leur a toujours dit oh, c'est pas bien d'être en colère, c'est méchant, t'es méchant parce que t'es en colère, etc. Tout ça, c'est des conditionnements, et elle n'ose plus être en colère, elle refoule la colère, ou voilà. Je pense que pour aborder vraiment les facteurs perturbateurs, il faut pouvoir les regarder en face. Donc vraiment les accepter, accueillir leur présence et faire l'expérience en même temps que par nature ils ne sont pas dangereux. C'est ça qui est très important au départ. Ils ne sont pas par nature dangereux. Je prends souvent cet exemple, mais si vous avez votre voisin qui fait du bruit sans arrêt et que vous avez de la colère jusqu'à aller lui faire une tête au carré, où est le problème? Il n'y a pas de problème d'avoir ce type de pensée. Parce que si vous ne la saisissez pas, eh ben, vous allez faire l'expérience qu'il y a ce phénomène-là qui peut être très puissant dans votre esprit, mais si vous ne la saisissez pas, si vous ne saisissez pas ce phénomène, n'allez pas vous lever pour aller faire une tête au carré à votre voisin. Mais par contre, vous allez peut-être agir quand même et aller lui demander, eh bien, de, par exemple, réduire sa nuisance sonore. Mais par contre, si vous saisissez ce phénomène-là, là, vous allez vous lever et vous allez lui faire une tête au carré. C'est pas le responsable de cet acte n'est pas le fait d'avoir cette colère. C'est le fait de l'avoir saisie. Le seul responsable là-dedans, c'est la saisie égotique. C'est la saisie de ce facteur perturbateur, de ce phénomène. Il ne faut pas se tromper de responsable de nos actes. Il n'y a qu'un poison, hein. On dit souvent ça dans les textes. Il n'y a qu'un poison, c'est la saisie. C'est ce qu'avait répondu Rinpoché Rinpoche à une personne un jour qui disait « Mais vous n'avez donc jamais de désir. Les Rinpoché n'ont donc jamais de désir. » Et Rinpoché a répondu « Mais bien sûr que si, autant que vous. Seulement, on ne saisit pas. » Et c'est là la clé. C'est comment je réagis par rapport à la présence de tel ou tel facteur perturbateur. Avoir peur, par exemple, d'un facteur perturbateur, c'est le saisir. C'est le rejeter. Donc là, il y a une saisie. Donc on ne peut pas faire l'expérience de sa présence.
Quand vous dites saisie, c'est expérimenter?
Non, saisir veut dire s'accrocher. D'accord. S'accrocher. Je solidifie le facteur perturbateur. Je m'y accroche. Oui. Mais vraiment, et je m'y accroche et ça devient, c'est présent tout le temps, je ne pense plus qu'à ça, je m'identifie à ce facteur perturbateur, voilà. Et c'est pourquoi dans la méditation dès le départ, la méditation du calme mental, ça consiste à prendre conscience des phénomènes qui sont présents et à ne pas les saisir justement, à les laisser passer. Donc ce n'est pas devenir indifférent au phénomène, mais c'est apprendre à, malgré leur présence, ok, je les laisse passer. Bon, on n'y arrive pas du jour au lendemain, hein. Mais c'est... Voilà pourquoi la pratique doit être régulière, répétée jour après jour. Mais il y a une chose encourageante quand même, c'est que si par exemple on rencontre un Rinpoché ou le Dalai Lama, etc., qui nous inspire parce que l'on sent que justement parce qu'il n'y a plus de saisie, alors il y a un rayonnement de toutes ces qualités et qui est perceptible. Il faut toujours se rappeler que cet individu n'est pas supérieur ou différent de nous. La seule différence, c'est que lui a fini le chemin et que nous sommes encore en chemin. Mais c'est la seule différence. Ce que le Bouddha a réalisé, tous les êtres peuvent le réaliser. Ce n'est pas réservé à une certaine élite intellectuelle qui possède des qualités qui sont propres et que d'autres n'ont pas. Dans le bouddhisme, on dit que tous les êtres ont cette nature de Bouddha, c'est-à-dire cette nature de sagesse. Cette potentialité existe chez tous les êtres, quoi. Et ça, il faut souvent se rappeler ça, quoi.
Ce qui est vicieux, c'est que dans le cadre de la pratique, on justifie notre pratique pour avoir une saisie. Quoi. On peut se laisser entraîner par, par exemple, si quelqu'un nous gêne dans notre pratique, on dit, bah oui, mais c'est quand même important la pratique, quoi. On se trouverait des raisons d'être en colère pour quelqu'un qui nous gêne dans notre pratique, quoi, parce qu'on est soi-disant dans un niveau élevé. Quoi.
Bah, c'est ce qu'a...
utilité comme ça, ouais. Il faut faire attention.
C'est ce qu'avait fait un lama en Normandie qui un jour, pendant toute une méditation du calme mental, réparait sa voiture sous les fenêtres du temple. Et il faisait exprès. Pendant une demi-heure, il était là, avec sa voiture. Quoi. Ben, je peux vous dire que ça crisait bien dans le temple. Quoi. Parce qu'il disait, oui, mais on n'a pas les conditions pour méditer. Quoi. Et ben voilà. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que si on n'a pas les conditions de calme absolu, est-ce qu'on peut quand même ne pas saisir ce qui se passe, quoi? Et là, c'était une bonne expérience qu'il avait, qu'il nous avait fait faire, quoi.
Est-ce que les animaux ont des facteurs perturbateurs?
Ah, je pense, ouais.
Est-ce que les émissions hier, elles sont perturbateurs? Vu des otaries se battre? Et c'est vrai. Je me suis dit, les animaux qui nous entourent encore les différents d'eux, chien après sa gamelle,
ouais.
C'est de la colère, c'est du genre de
ça. Ça peut être de la possessivité.
Mais en quoi nous, alors
nous sommes différents?
Ah oui, une otarie et moi.
Quelle est la différence? S'ils ont des facteurs perturbateurs, nous en avons. Donc en fait, nous ne sommes pas si différents que ça. La seule différence, c'est que nous avons la capacité d'analyser et d'observer ce qui se passe dans notre esprit et donc de pouvoir transformer ça. Ça, c'est propre quand même à l'humain, quoi. Mais dans notre comportement, quelquefois, on est même si c'est peut-être plus sophistiqué ou emballé de façon différente, hein, mais dans notre comportement, on a des comportements quelquefois peut-être pires que les animaux, quoi. Oui. Mais quand vous observez tous ces actes négatifs que l'homme peut créer autour de lui vis-à-vis d'autres hommes, d'autres humains, etc., c'est toujours des facteurs perturbateurs à la base, et que l'humain, dans cette circonstance, saisit très fortement. Une guerre, c'est ça, la brouille entre deux personnes, c'est ça. C'est soit la haine, soit l'avidité, etc. Mais c'est le même processus, c'est le même fonctionnement de l'esprit, quoi. Il n'y a pas de fonctionnement différent dans l'esprit entre quelqu'un qui déclare la guerre à un autre peuple et puis deux personnes dans un couple qui peuvent pas s'encadrer depuis 20 ans. Je ne sais pas si vous avez vu ce film Le Chat, par exemple. Enfin, c'est une super analyse de comment un couple peut vivre dans ces facteurs perturbateurs, et c'est pire qu'une guerre. Enfin, c'est une souffrance qui dure 20 ans, quoi, pour l'un comme pour l'autre.
On dit qu'on doit trouver l'état de Bouddha en nous.
Oui.
Mais on est déjà vers le... En fait, peut-être ce qu'il y a au fond de nous, c'est de la férocité. C'est ça que j'arrive pas à... Qu'est-ce qu'il y a au fond?
Mais il n'y a pas d'amour. Il n'y a jamais d'amour. Ah bah oui, il y a ça aussi, oui. Il y a plein de qualités. Ah bah après, il y a des conditionnements qui font que c'est moins visible. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les voiles, les différents voiles. Hein? Mais il n'y a pas un individu qui n'a pas d'amour, qui n'a pas de compassion pour un proche, qui n'a pas aimé ici, quoi, je veux dire. On sait tous ce que c'est. Alors on aime peut-être mal, on aime parce qu'il y a des voiles, parce que c'est conditionné. D'accord, mais ça peu importe. Mais cette qualité d'amour, elle est présente.
Est-ce que tout ça n'est pas justement voilé?
Mais si,
par peur d'exprimer l'amour.
Mais par des tas d'éléments. Mais c'est pour ça qu'on parle beaucoup de voiles dans le bouddhisme et que la méditation sert à retirer les voiles. Oui. On parle de purification. Mais c'est ça, en fait. C'est purifier, ça veut dire, en fait, dévoiler, retirer les voiles qui recouvrent cette nature de Bouddha de façon à ce qu'elle puisse s'exprimer de plus en plus. Mais ça, c'est. Alors bon, ça peut être tout un thème pour une soirée, mais en Occident, on a du mal à vraiment prendre conscience de cette nature de Bouddha. On ne parle que de nos problèmes, que de nos négativités, que de ce qui ne va pas, que de nos erreurs, manquements, chutes, de nos colères, de nos actes négatifs, etc. Mais bonté divine, on ne fait pas que ça dans notre vie, quoi. Nous ne sommes pas que des monstres. De temps en temps, nous pouvons être comme ça. Mais il y a bien quand même des moments où nous aimons, où nous avons de la compassion pour un proche qui souffre, où nous donnerions absolument tout ce qu'on a pour quelqu'un que l'on aime, etc. Ça existe, et c'est ça notre nature de Bouddha. Et dans le Dharma, nous ne pouvons pas pratiquer le Dharma si nous ne sommes pas conscients que nous avons tout ça en nous-mêmes. Parce que c'est ce qu'il faut développer. Alors pour pouvoir développer ces qualités, il faut savoir ce qui fait obstacle. Quelles sont les voiles à ces qualités-là? Mais ça, c'est mon dada depuis 30 ans. C'est on ne peut pas pratiquer le dharma si nous sommes absolument sûrs d'être nuls. Quoi. Et alors, surtout le Vajrayana. Quoi. Parce que le Vajrayana, c'est prendre conscience que nous sommes Bouddha tout de suite, ici même. Alors, c'est encore une autre paire de manches, hein.
On a tous éveillé, puisque un éveillé, par la définition, ne peut pas être aimé s'il n'est pas aimé. Donc on a tous été aimés. Si on est là, si on est passé à Sarvana,
C'est pourquoi les Tibétains prennent toujours cet exemple de la mère et qu'on ne prend jamais en Occident, parce que dans une assemblée, quand vous prenez l'exemple de l'amour de votre mère, il y a la moitié de l'assemblée qui dit « Oh ben non, c'est surtout pas l'exemple qu'il faut que je prenne. » Hein? Mais en fait, ça rejoint cette idée-là, quoi. Ouais. La pratique du dharma, ça demande un autre regard sur soi-même. Et on est obligé de transformer un peu notre regard sur nous-mêmes. Et si nous avons tendance à voir que les aspects négatifs de nous-mêmes, eh bien, il faut transformer ça et se dire, ok, il y a ça qui ne va pas, mais qu'est-ce qui va bien, quoi? Et alors prendre soin de ce qui va bien. Ça, c'est, pour moi, c'est très important dans notre pratique du dharma, quoi. Si du matin au soir on pense qu'on est nul et bon à rien, je pense qu'on ne peut pas pratiquer le dharma. Quoi. C'est bon? Par cette vertu, puis-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci à tous.